que des miracles et des merveilles, Venodé, les Shimcha Hagadol, c'est là, et nous reconnaissons, nous en sommes reconnaissants à ton grand nom. Voilà, ce texte, qui est le texte de base de la liturgie de Hanouka, dans la Tfila, dans la prière, eh bien, caractérise, si vous voulez, cette notion de miracle en dehors de l'allusion à tel ou tel prodige, si j'ose dire, par rapport à des choses qui nous sont inhabituelles, de voir une quantité d'huile brûler beaucoup plus de temps qu'elle ne devrait, d'après les lois de la nature. Bref, jusque-là, c'est clair ? Donc. Alors, je reprends donc le problème général. Et nous allons lire maintenant un texte du Maharal, qui est un texte de théologie, et que je lirai assez rapidement, mais pour mettre en évidence l'essentiel sur le point suivant. Dans l'introduction, nous avons vu que ce qui gênait les théologiens rationalistes par rapport à la notion de miracle, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un changement dans la volonté du Créateur. C'est la volonté du Créateur qui a institué l'ordre des lois de la nature, en hébreu le Teva, la nature. Et l'idée que Dieu intervienne pour changer l'ordre des lois de la nature, d'un cas particulier de son action de providence, le cas général étant le fait qu'il intervient dans la gestion du monde à travers les lois de la nature. En tout cas dans la cohérence du monothéisme intégral. Mais ce cas particulier, en contradiction avec les lois de la nature, est une idée qui gêne les théologiens que j'appelle donc par méthode rationaliste. En fait, un théologien n'est pas rationaliste, puisqu'il croit en Dieu, et que la raison n'y croit pas. La raison est livrée à ses propres forces. Mais disons, nous n'avons pas de vocabulaire autre, en français en tout cas, pour les définir. Ce sont les, disons, les théologiens non mystiques. Il vaudrait mieux employer des attributs négatifs. Et pourquoi il y a cette difficulté? Eh bien, à cause de l'existence du texte biblique. Le texte biblique raconte des événements de ce type que nous commémorons à Hanouka, mais des événements depuis le premier Shabbat du monde, depuis que la nature fonctionne, le texte biblique raconte l'intervention de Dieu pour réaliser dans l'histoire des hommes, dans le monde des hommes, des événements qui ne devraient pas se passer si le monde ne fonctionnait que d'après les lois que Dieu lui-même a instituées. C'est ça qui gêne les théologiens. Pourquoi ? Puisque ces théologiens sont des croyants, sont des grands maîtres de la tradition. Et si, et encore une fois, mais c'est vraiment hypothétique, ils seraient beaucoup plus à l'aise si le texte de la Bible n'existait pas. Mais si le texte de la Bible n'existait pas, ils n'auraient pas de chair de théologie. Il y aurait une impossibilité. Mais c'est parce que, à partir d'un certain temps dans l'histoire du monde, le monde a changé. Par rapport à ce problème, et ce n'est plus le monde où, de façon visible et diagnosticable, Dieu intervient. Et que je vous appelle d'habitude le monde où Dieu se révèle. Et la Bible, le temps de la Bible a été clos. Et c'est le temps où est close, on dit, la période du dévoilement, de la révélation dévoilée de l'intervention de Dieu dans le monde. C'est la période de l'achèvement de la prophétie. Achèvement, ça ne veut pas dire fin, dans le sens total. Ça veut dire occultation. Il y a une rémanence de ce qui s'est passé avant, dans ce temps-là. Mais je vous rappelle la formule essentielle pour situer ce problème. On a oublié que la prophétie avait lieu et que c'était sérieux, que la révélation avait lieu et que c'était sérieux, parce qu'on a oublié qu'elle a cessé. Le fait qu'on ait oublié cet événement de cessation de la prophétie a dénaturé la relation à la notion même de prophétie. Est-ce que c'est suffisamment clair, ce sujet ? Non. C'est-à-dire, les hommes se relient au monde comme ils se trouvent depuis l'arrêt de la prophétie, c'est-à-dire il y a 2600 ans à peu près, la fin du premier temple, comme si c'était le monde dont la Bible parle. Or, la Bible parle d'un monde où Dieu intervient de façon dévoilée. Or, ce n'est pas le nôtre, le monde. Donc, il s'est passé quelque chose. On a oublié ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est la clôture du temps de la révélation. Est-ce que c'est clair, au moins, du point de vue de la référence historique ? Et alors, nos théologiens, finalement, évoluent dans un monde où il est impossible, enfin, il est difficile de formuler de diagnostiquer les choses dont parle la Bible dans le monde tel que l'homme cultivé en a expérience dans sa représentation, disons, rationnelle. Et j'essaie de vous faire comprendre la difficulté de cette théologie du Moyen-Âge. Je vais quand même citer un nom, un grand nom, Maïmonide, qui, bien sûr, dans son enseignement en tant que rabbin, parle des miracles de la Bible avec la foi du charbonnier. Après tout, c'est un rabbin. Mais lorsqu'il fonctionne comme théologien, comme philosophe, il s'évertue à essayer de faire comprendre à un rationaliste pour qui le monde n'est que le monde de notre contemporanéité, où il n'y a aucune évidence des choses dont parle la Bible, que on peut quand même lire la Bible, quand même. Est-ce que c'est clair ? Avec des stratégies intellectuelles, je vous en rappellerai une, qui évacue les difficultés de ces récits de miracles. Que Dieu aurait prévu dès la création du monde que les miracles racontés par la Bible se passeraient comme ils se sont passés. Est-ce que c'est clair ? C'est une des explications que l'on accroche à Maïmonide. Le texte de Maïmonide est plus subtil que ça. Mais enfin, en général, les professeurs accrochent, disons les universitaires, accrochent à Maïmonide la thèse suivante. Dès la création du monde, Dieu a prévu que la mer Rouge s'ouvrirait le jour où elle devait s'ouvrir. Dès la création du monde, si je continue, Dieu a prévu qu'il y aurait une petite fiole qui queue. Encore une fois, cette explication complique le problème. Est-ce que c'est pas plus simple d'admettre que Dieu est Dieu, comme disait Maurice Clavel, je sais pas si c'est lui qui s'appelle comme ça. Vous avez lu ce livre ? Oui. Ce qu'il ajoutait, je ne sais pas. Je veux dire, pour un théologien, j'allais dire normal, eh bien, il n'y a aucun mystère quand Dieu intervient. Si Dieu intervient, c'est Dieu qui intervient. Alors, bien entendu, il faut craindre les faux diagnostics, les miracles de sorciers. Il faut craindre toute cette superstition de j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles, donc le Messie est là. J'ai rencontré des gens comme ça, alors je peux vous le dire. c'est bien quatre feuilles, le trèfle. Et on n'a aucune idée à quel point il y a des gens de bonne foi qui fonctionnent comme ça. J'ai rencontré un aveugle, et puis il faisait jour, alors le Messie est là. Bon, des choses comme ça. Et j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Et alors, voilà la difficulté. C'est que depuis la fin de la prophétie, les théologiens, j'allais dire même croyants, ça existe, se trouvent dans le même monde que le monde des philosophes. Or, le monde des philosophes, c'est un monde où il n'y a pas de révélation. Est-ce que c'est clair ? Or, c'est le monde de l'histoire depuis la destruction du premier temple. La révélation a cessé. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a cessé ? Elle s'est cachée. Mais nous ne rencontrons plus d'événements de ce type des récits de miracles de la Bible. Est-ce que c'est suffisamment compris ? Bon. Alors, l'argument principal de ces théologiens dits rationalistes, et encore une fois, je réserve leur quant à soi intérieur. Il suffit de lire leurs autres livres, comme par exemple pour Maïmonide. Si nous lisons ce qu'il dit des miracles dans le Mishneh Torah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui fait dire dans le Guide des Égarés. Et pas seulement Maïmonide, le Ralbach, Sadia Gaon et tous les autres. Alors, indépendamment des arguments que je vous ai cités dans l'introduction, il y a un argument auquel le Maharal va se confronter dans le texte que nous allons lire. C'est l'idée que le miracle brise l'ordre du monde. C'est la notion de seder. Je veux dire tout de suite la thèse du Maharal, pour aller vite dans la traduction, c'est que le Maharal va expliquer que les miracles, eux aussi, obéissent à un ordre. Il y a un ordre des miracles qui n'est pas le même que l'ordre des lois de la nature, mais il n'y a pas arbitraire. Ce n'est pas n'importe quoi dans l'ordre de l'arbitraire qui est défini par miracle, par la Torah, par les catégories du récit biblique. Je vous donne un exemple. S'il naît un veau à cinq pattes, ce n'est pas un miracle. C'est un déchet statistique. Okay? Mais si j'ose dire. Et il y a des veaux à cinq pattes qui naissent. Okay? Par exemple, nous savons que tous les 10 000 enfants qui naissent, il y en a un qui naît circoncis. C'est une statistique. C'est pas forcément un miracle. Pourquoi je dis pas forcément ? Pour pas faire de la peine aux familles où ça arrive, je vais les laisser croire qu'il y a un miracle. Mais. C'est ça ? Par exemple, bon, mais Moshe, c'est Moshe. Alors, ce que le moral dirait, c'est que ce n'est pas un miracle, c'est que c'est Moshe. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que le moral avait expliqué. Il ne faut pas croire qu'il y ait un arbitraire dans ces événements que la Torah définit comme miracle. Que nous définissons comme miracle, dans la définition simple, un événement qui contredit les lois habituelles du fonctionnement des phénomènes selon l'ordre de la nature. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que ce n'est pas arbitraire, il y a un ordre des choses. Et là, il y a une logique très profonde. C'est le Créateur qui fait des miracles. C'est le même Créateur qui a institué la nature, c'est lui qui fait des miracles. Donc, dans l'ordre de sa volonté, un autre niveau de son projet pour l'histoire de son monde. C'est clair? Alors, en tout cas, vous comprenez pourquoi le Talmud nous habitue à être rebelles à cette attitude de débusquer le miracle partout. Okay? C'est clair, comme je l'ai dit. La religiosité talmudique a horreur de cela. En somchim al hanes. Ça va jusqu'à cette consigne, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Si le miracle vient, on fait une fête. Et bien sûr qu'on espère toujours que s'il faut, pourvu qu'il y ait. Mais il faut d'abord vivre dans l'ordre du monde tel que Dieu l'a voulu en le créant. En somchim al hanes, ça veut dire, je vais essayer de traduire littéralement, aidez-moi, en somchim, c'est pas qu'on se base pas sur un miracle. On ne compte pas sur le miracle. Okay. Ça veut dire, si je vais agir imprudemment en disant, mais Dieu fera un miracle, il ne fera pas. En somchim al hanes. Sauf, ça c'est un jeu de mots, sauf Bilham qui s'appuyait sur son hanes. Mais ça c'est autre chose. Bien, en tout cas, je reviens au sujet. Alors, le moral va nous dire qu'il y a un seder propre au Nissi. Je vais introduire ça par une analyse très brève de deux mots du vocabulaire biblique qui disent les miracles. Il y a au moins sept mots différents, je vais en prendre deux. C'est hôte et mophet. Le miracle est toujours appelé simultanément hôte et mophet. Or, la signification de hôte est un signe, c'est-à-dire c'est un événement qui a une signification. Mophet, vous avez ce mot dans l'hébreu moderne, où ça signifie une preuve. Mophet. Mophet, c'est un prodige. Or, c'est un événement qui en lui-même sert de preuve. Alors, cette notion de miracle a ces deux dimensions, entre autres, mais notamment, hôte et mophet. Je vous citerai un texte du Sifré, qui est un des Midrashim sur la Torah, qui explique de deux manières. Le même événement, c'est à propos de la sortie d'Égypte, était hôte pour les Hébreux et mophet pour les Égyptiens. Ça veut dire que les Hébreux percevaient la signification et les Égyptiens étaient frappés par l'aspect de prodige qui les paniquait, comme on dit ça en français. Qui les terrorisait. Voilà. Et vous voyez, dans le même événement, il y a ces deux dimensions, hôte ou mophet. Mais le fait qu'il y ait signification n'évacue pas l'aspect mophet, l'aspect prodige. Parce que très souvent, ça c'est par expérience pédagogique que je vous en parle, très souvent l'esprit humain a une tendance, dès qu'il atteint une signification d'un événement, de le banaliser. Pourquoi? Parce qu'il en connaît la signification, alors ça perd tout sens. Comprenez la différence des mots, signification et sens. Parfois, on hésite à donner des significations pour pas que ça perde de sens. Vous avez remarqué ça, je suppose. C'est pourquoi on ne donne les significations qu'à ceux qui sont capables d'apprécier le sens, si j'ose dire. Et la deuxième explication du chiffré, c'est de dire que c'était hôte bashamayim mofet alares. C'est un signe dans le ciel et un prodige sur terre. On peut relier d'ailleurs les deux niveaux de signification. Alors, prenez le texte, et je vais le lire rapidement en le traduisant simultanément. Si, dans le cours de la lecture, il y a une difficulté qui vous arrête, vous m'arrêtez, on essaye d'y réfléchir. Alors, c'est une des objections des théologiens rationalistes que le Maharal discute Nous en avons déjà vu deux. Identification de l'essence divine et la fonction de connaissance, Marat refuse cela. L'essence divine est autre que le fait que Dieu soit capable de connaissance absolue, c'est un de ses attributs. Et la deuxième, c'est l'identification entre l'essence divine et sa volonté. Et là encore, le Maharal, en prenant à l'appui des versets très clairs, évacue tout cela. Et son argumentation principale, c'est de dire que tout ce que nous savons de Dieu, c'est qu'il est kadosh, séparé des conditionnements du monde, à part des conditionnements du monde, et que nous ne connaissons aucune autre définition de son essence, sinon qu'elle est en dehors, séparée de tout ce qui conditionne le monde de la création. Et par conséquent, les théologiens qui affirment que Dieu est tout entier connaissance, que Dieu est tout entier volonté, que Dieu est tout entier quoi que ce soit, sortent ça de leur tête, disent le Maharal. Ce que la Torah dit, c'est que Dieu est kadosh. On traduit saint en français, mais gardons le sens étymologique, à part et donc non soumis au conditionnement du monde. Et par conséquent, il en résulte que le fait qu'il soit connaissant du monde peut suivre les fluctuations de changement de ce qui se passe dans le monde sans que son essence ne soit atteinte, puisque c'est une fonction. De la même manière, pour la volonté, lorsqu'il décide d'intervenir, au moment où il intervient, ponctuellement, et pas comme, selon la stratégie intellectuelle des théologiens rationalistes, de prévoir tout avant de créer le monde, comme si c'était une mécanique à conge. Est-ce que c'est clair? Et le Maharal est parfois très sévère pour ces théologiens. J'espère avoir montré que ce n'est pas la foi de ces théologiens qui est en question, mais leur système pédagogique. Est-ce que c'est bien clair, Ken? Encore une fois, parce qu'ils se trouvent dans un monde où il faut s'expliquer avec des athées, avec des arguments d'athées. Alors leur théologie, si j'ose dire, devient une athéologie. C'est ce qu'on appelle la théologie avec une apostrophe. Donc on commence le texte. Od uksha aher, une autre kusha, une autre difficulté, consisterait à dire « Sheouid barach mesader aseder shernim tsaim » à ordonnancer l'ordonnance des existants. L'oïtachen Sheouid barach, il n'est donc impossible que lui-même, Meshane Sidram, change leur ordre, le seder auquel ils sont soumis. Qui ka asher yechadesh haot, et parce que lorsqu'il fait exister cette chose nouvelle du miracle, vous voyez le mot est appelé haot, du signe, Kemu, comme par exemple Amidat Hashemesh, le fait que le soleil se soit arrêté au temps de Josué, Vehu, Bitul, Veshinui, Seder, Lanim, Saim, et ce cas-là serait une annulation et un changement dans l'ordre des phénomènes. Veloï Tachen, Sheyavo, Shinui, Seder, Minam, Seder, et il n'est pas pensable que vienne le désordre de celui qui avait mis l'ordre. Vous avez compris l'argument qu'il veut combattre. Halo, Alku, Sheazot, et Shibur, Tenuzal. N'est-ce pas que contre cette objection, déjà répondu nos maîtres, chez Amrou, lorsqu'ils ont enseigné, par exemple, Dieu a fait une condition avec l'œuvre du commencement, c'est-à-dire avec le monde, que lorsqu'il serait nécessaire que la mer rouge s'ouvre, elle s'ouvrirait. L'un des exemples qui sont cités ici. Vekavanatam, leur intention était de dire, basé chez Ukshalaem, que il leur a semblé difficile de penser, après que tous les existants existent selon un certain ordre, mais Ito et Barach, qui vient de Dieu lui-même, en Itachen Baem Shinui. Il est impossible qu'il y ait un changement dans cet ordre. Kima Asam, Vesidro, Raoucheye Kayam Narad, Vertishtane. Car l'œuvre de Dieu et l'ordre qu'il a mis dans le monde, est digne d'être éternel et ne pas changer. Verot, qui koulam nivraim bishmoed varach. Et aussi que toutes les créatures sont créées par le nom de Dieu. Là, il y a un autre problème, mais je n'ouvre pas de parenthèse. Ken. La médiation du Créateur, c'est le nom de celui qui est Dieu. Dans le texte, ou meachar shekoulam nivro bishmo, et du fait que tous ont été créés par son nom, Asher vous nitzri, qui est éternel, kayam narad, subsistant à jamais, kemo sheshmo kayam nitzri, De même que son nom est un existant éternel, car Reouim, Maase Bereshit, ainsi sont dignes d'être les créatures du commencement, Atlouim Bishmo, qui dépendent de son nom. Si son nom est éternel, ce qu'il a créé doit être éternel. Regardez la difficulté, parce que la notion d'éternel, la notion de créer, s'en met en contradiction. Alors c'est pourquoi il dit les créatures qui dépendent de lui. En quoi sont-elles créatures, si elles sont éternelles? Puisque créature, ça veut dire qu'il y a eu un commencement, au commencement du créa. Donc cette difficulté-là, je la laisse de côté. Okay, j'avance. L'Iyot Nitzriim, ils étaient dignes d'être éternels, qui beya Hashem tzurolamim. Là, c'est la citation d'un verset des psaumes, dans laquelle je n'entre pas, j'ai encore une parenthèse, on avance. Ve'alze amru, et en cela ils ont dit, ki ka'asher nibreu, que lorsque les créatures ont été créées, haya mesudar mimenu hanes sheyye banibraim, était déjà prévu dans cet ordre le miracle qu'il y aurait dans l'histoire des créatures. Ka'asher mesudar mimenu maase atevar, de même qu'a été ordonnancé de par sa volonté l'ordre de la nature. Mais sidur hazé, et cet ordre-là, regardez, le terme a changé. C'est plus seder, mais sidur. Seder, c'est la structure de l'ordre, et sidur, c'est l'ordre lui-même. Est-ce que vous voyez la différence? Si je mets en ordre des éléments, alors les éléments sont dans un certain sidur, mais quels que soient les éléments, la structure s'appelle le seder. Vesidurazé, cet ordre des choses, qui bemaase bereshit, et que, dans l'œuvre du commencement, le ichlit atevar legamre, Dieu n'a pas décidé que le monde serait que nature. Là, il y a une idée importante. C'est-à-dire, nous sommes habitués à dire que le monde est la nature. C'est la création devenue la nature lorsque Dieu a décidé de lui donner son autonomie. Alors, l'idée qu'il y a là, c'est que le monde, c'est la nature. Mais ce n'est pas une nature absolument que cela. Il y a les interstices dans lesquels un autre ordre peut se laisser apparaître. Aval sider gamken les nissim, mais il y a aussi un ordre pour les miracles, chez l'okatevar, qui ne sont pas d'après la nature. Bidvar, chez Besouf, yé naasa anes. De telle sorte que, en fin de compte, le miracle se fasse. Voilà, l'idée qu'il y a là, c'est. Et là, en cela, le Maharal critique les positions que j'avais citées tout à l'heure. C'est pas que Dieu avait prévu que l'événement du miracle se fasse, mais qu'il y ait possibilité d'un événement s'il doit se faire. Est-ce bien clair? C'est surtout ça que je voulais préciser à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a un ordre de la nature, mais il y a aussi un ordre des miracles. Et ça ne veut pas dire que les miracles sont prédestinés. C'est comme ça qu'on dit en français, fatal. Fatou, fatal, ken. Ça ne veut pas dire que ça devait arriver. Si vous voulez, c'est une notion très différente, précisément de celle de la fatalité. Les astrologues modernes commencent un peu à corriger cette notion de fatalité astrologique en y introduisant, je dis bien les modernes, ken, en y introduisant un peu cette notion-là. Que l'événement n'est pas fatal, mais possible. Je ne sais pas si vous fréquentez ce genre de discipline, mais en tout cas, il y a, depuis quelques dizaines d'années en tout cas, une nouvelle astrologie qui recorrige tout ce qu'il y avait de fatal, de prédéterminé, du fatum des anciens, de la prédiction astrologique. Je vous signale, parce que ça existe, vous risquez de le rencontrer. Je vous signale, c'est une irruption de la mentalité publique dans l'astrologie moderne. Okay. Même si vous connaissez des astrologues modernes, c'est une nouvelle science, paraît-il. Professeur en astrologie, ça existe, okay. Qui vous diront, non, l'astrologie n'a jamais dit que. Faites bien attention à ça. Ce sont des gens qui sont des transfuges de la mentalité biblique dans l'astrologie. Bon, je referme la parenthèse.
Il y aurait deux structures qui iraient parallèles. Une structure d'un certain ordre voulu et une certaine structure d'une possibilité de
deux choses. Oui. L'idée est là, mais il y a une infinité. Il n'y a pas seulement deux. Il y a l'ordre de la nature. C'est la structure de base qui fait que le en l'âme, le monde créé, est devenu la nature. Et il y a une infinité de niveaux qui, suivant la volonté de Dieu, jouent à tel ou tel moment. C'est pour ça que j'ai ajouté la notion d'infinité, pas deux seulement. Parce qu'il y a un ordre de miracle qui est à un certain niveau. Il y a un autre ordre qui est à un autre niveau. D'accord ? Et c'est pas de n'ayez pas peur, la commémoration du miracle, c'est pas un miracle. Et tu as compris ce que je dis, hein ? Par exemple, je sais pas moi, une naissance impossible, elle arrive quand même. Et bien, c'est un certain niveau de ces structures auxquelles tu penses. De l'huile qui brûle 8 jours au lieu de brûler 1 jour, on va avoir un texte dans la Bible, c'est un autre niveau. Ou bien du vinaigre qui brûle, comme si c'était de l'huile. On a des traces dans le Talmud. Okay? Bon, à Homer, chez Achémène Yatlik, et Yomar, chez Homer. Elisha. Alors c'est toi le prophète, parce que c'est ce texte qu'on va étudier. Tu vois le miracle. Je ne t'ai pas suggestionné. Bon, on va voir d'ailleurs tout à l'heure. Alors voilà, l'idée essentielle de ce texte, gardez le texte. Je ne voudrais pas prendre trop de temps pour le lire. L'idée essentielle est celle-là. C'est que de même qu'il y a un céder de la nature, il y a un céder lénissime. C'est moi qui mets ça au plus rien infini, okay? Mais vous le voyez dans la suite. Et alors, il donne d'autres exemples. Simplement, une chose que vous allez lire avec moi, vous avez certainement la citation de la Gemara de Shabbat. C'est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne du deuxième morceau. Bézé Shamrouzal. Haomer Halel Becholion, Keilou Mecharef Mgadef. Le moral donne une citation de la Gemara qui dit. Celui qui dit le Hallel tous les jours, je vais expliquer, celui-là est un blasphémateur. Qu'est-ce que c'est le Hallel ? C'est les prières de louange quand il y a eu un miracle. Alors celui qui dit le Hallel tous les jours est considéré comme un blasphémateur. Pourquoi ? Parce qu'il considère que tout est miracle. Donc, il ne considère pas que le miracle existe comme tel. C'est clair ? Voyez donc l'argumentation du Maharal. Et vous verrez d'ailleurs, son texte là est très clair. C'est comme s'il n'admet pas qu'il y a un minhag haolam, une manière de se conduire du monde qui est garantie par la volonté du Créateur. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est très important, sur une expression que vous rencontrez dans la liturgie, comme disant que Dieu est El Neeman. Comment on traduisait El Neeman ? Vous savez, quand on est dans la prière, en collectivité, on ajoute ces 3 mots à la lecture du chemin pour faire le nombre des mots. D'accord ? Alors, que c'est El Neeman en français ? Traduisez-moi. Voilà. Alors, on traduit habituellement Dieu fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fidèle ? Ça veut dire qu'il est fidèle à ses promesses, fidèle à la parole qu'il a donnée. Ça veut dire, je vais inverser le sens, Dieu à qui on peut faire confiance. Dieu digne de foi. Oui, ça semble être l'inverse, mais c'est le sens du terme. El Neeman, ça veut dire Dieu à qui on peut faire confiance. Et quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne fait pas confiance à Dieu ? Alors, c'est enseigné à propos des lois de la nature. C'est-à-dire, les lois de la nature sont garanties par le Créateur. On peut lui faire confiance qu'il n'y aura pas de miracle. Tous les jours. Vous voyez, c'est clair ? Parce que si nous étions dans un monde enchanté, comme le monde des... de l'enchanteur Merlin, disons, okay, eh bien, la liberté de l'homme n'aurait pas d'appui. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à Dieu que le monde fonctionne comme il l'a voulu. C'est avec Abraham que cette conscience apparaît dans l'histoire. C'est déjà, c'est un peu anachronique, je veux dire, la modernité, la conscience moderne, qui est sortie de la conscience magique, la conscience affolée, la conscience magique était affolée dans la crainte que les phénomènes changent par caprice des dieux. D'accord ? Abraham sort de cette conscience magique et fonde la modernité. Est-ce que c'est bien clair ? Donc, alors, bien entendu, notre problème, c'est que la Bible raconte des miracles. Et chacun, dans l'expérience de sa vie, a expérience. Et en général, on n'en parle pas, parce que seul celui qui l'a expérimenté comprend de quoi il parle. Je vous donnerai presque, le conseil de ne jamais en parler, si vous avez dans votre vie l'expérience, de choses dites miraculeuses dans l'ordre du miracle caché. Je veux dire, des événements inattendus qui ne devaient pas se passer, normalement, ils se passent quand même. D'accord ? C'est clair, Ken ? C'est clair ce que j'ai dit. Bon. Eh bien, Enneman, ça veut dire donc qu'on peut faire confiance à Dieu, que le monde fonctionne comme les savants nous disent qu'il fonctionne, lorsqu'ils trouvent les vraies lois, les vrais savants, okay, qui établissent les vraies lois des phénomènes. Alors, cette garantie, cette sécurité de la conscience, c'est ça que Dieu est fidèle, en garantie. Quel est le verset auquel j'ai fait allusion dans toutes ces explications? Un verset que vous connaissez. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une allusion à une promesse particulière que Dieu a faite de ressusciter les morts. Okay? Vous êtes encore dans le premier sens de... Quel est le verset qui indique que les lois de la nature sont garanties par Dieu lui-même? Il a fait. Hoc Nathan Belo Yahavor. Il a institué un statut et ne le transgresse pas. C'est clair? Bon, rappelez-vous de ce verset. Parlons pour ce texte. Alors là, on arrive, vous allez prendre le Tanakh, à un texte, c'est dans le livre 2 des Rois, chapitre 4. Un texte qu'on lit dans la Haftarah. Dans une Haftarah. Alors prenez Melachim Bet, les Rois 2, chapitre 4. Je vais vous raconter l'histoire. Alors c'est un récit dans la Bible qui parle de quelque chose d'analogue à ce miracle de la fiole de Hanouka. Quel est le miracle de la fiole de Hanouka? C'est une fiole d'huile qui ne devait brûler qu'un jour et qui a brûlé pendant 8 jours. Pourquoi 8 jours et pas 9, et pas 7, et pas 6? Qui peut répondre? Quel sens ça? Quelle signification ça a? Avant d'arriver là, ça je sais que vous savez, puisque vous savez que je sais que vous savez. Et c'est pour ça que j'ai demandé. Shemen, ça veut dire lui. Mais pourquoi lui? Ah, Shemona. Oui, Shemona, ça veut dire lui. Ben, de ça, je vais vous parler tout de suite. C'est que... Bon, je commence par le sens que vous avez donné. C'est l'enseignement du Maharal que le chiffre 8 est à l'indice du 8e jour qui est le temps messianique. Il y a les 6 jours du commencement, le 7e jour où est logée toute l'histoire du monde, le 7e jour aboutit au 8e qui est le jour messianique. Effectivement, en hébreu, Shmoné, ça veut dire 8, c'est la même racine que Shemen qui veut dire lui. Je veux dire quel est le lien de sens. C'est le jour de l'onction. C'est clair? Ça suffit. Vous savez que c'est l'onction par laquelle le dignitaire était oint. Et le Mashiach, c'était le roi, Amelech HaMashiach, le roi qui était choisi par le prophète parmi tous les prétendants légitimes, tous légitimes, c'est le prophète qui décidait lequel était oint. C'est clair, Ken? On l'appelait le Melech HaMashiach, le roi oint. Ce mot est venu, le mot français Messie, à travers le grec, qui a pris un décalque de Mashiach, et... Non, Christos, c'est un autre mot en grec. Et c'est le mot Messia, dans les Bibles traduites, est devenu Messie en français. Mais le mot Messie en français connote ce que les chrétiens disent du Christ. Ça n'a rien à voir avec la notion de Mashiach étymologique. Le Mashiach était un roi. Il y avait deux Meshichim. Il y avait le roi Messie et le prêtre Messie. Le Kohen HaMashiach et le Melech HaMashiach. Donc. Et alors, ça veut dire que le 8e jour est défini comme étant le jour de l'onction. Ça y est, c'est clair? C'est le jour de l'huile. Je vous ai une fois cité cela. Il est fort possible que dans le français parlé, l'expression « une huile » pour dire une personne importante vienne de là. C'est très vraisemblable. Mais quand on dit quelqu'un, c'est une huile, ça veut dire qu'il a été ouin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il était belge. C'est ça à quoi tu penses? Un belge qui bégayerait. Bien. Alors, en tout cas, on revient au sujet. Où est la signification messianique de l'événement? Vous allez voir que c'est très simple, comme d'habitude. Pendant combien de temps cette fiole qui ne devait brûler qu'un jour a brûlé? Pendant le temps qu'il fallait pour préparer l'huile nouvelle. Il a fallu 8 jours pour préparer l'huile nouvelle, alors elle a brûlé 8 jours. Alors, la signification messianique de cela, au niveau de la signification, est maintenant très claire. C'est-à-dire, où était le miracle miraculeux? Si vous voulez, où était l'aspect miraculeux du miracle? C'est que quelque chose de pur était resté, un reste de reste de reste, et qu'il a, si j'ose dire, tenu le coup, le temps qu'on prépare la nouvelle récolte. Alors, il faut le comprendre au niveau des hommes, il restait une poignée, les moins nombreux par rapport aux plus nombreux, il restait une poignée de Judéens fidèles, et ils ont réussi à faire la transition de l'histoire jusqu'à ce que la restauration de la nation judéenne apparaisse. C'est ce que nous avons vécu dans notre génération. Je ne sais pas si vous comprenez l'analogie. Or, cet événement comme tel est un indice 8. Je veux dire, la signification, il faut d'abord la mettre dans l'événement. Alors après, on comprend la signification du chiffre. Est-ce que c'est que faites pas les choses dans votre sens. C'est pas parce que 8, c'est le chiffre messianique, que ça a duré 8 jours. C'est parce que l'événement était messianique que ça a duré 8 jours. Je vais vous donner un exemple pour éclairer ce que je veux dire au point de vue de la méthode. C'est pas parce que l'horloge marque l'heure qu'elle marque qu'il est cette heure-là. C'est l'inverse. C'est parce qu'il est cette heure-là que l'horloge le marque. C'est clair. C'est pas l'horloge qui déclenche l'heure. Vous avez bien compris le week-end. Donc. Alors voilà que je voulais vous citer ce texte que je vais lire très rapidement avec vous. C'est un texte dans les Rois, chapitre, livre 2, chapitre 4. Veisha achat minesha benenevi. Et une femme, parmi les femmes des fils de prophètes, qui étaient les fils de prophètes, c'était les élèves des prophètes. Alors retenez bien que ce n'est pas dans n'importe quelle famille que ça va se passer. Ça se passe dans une famille de prophètes. Okay? Vous savez qu'il y avait des écoles de prophètes, où les Bnei Hanevi'im, qu'on traduit les fils de prophètes, étaient les élèves des prophètes, s'initiaient à la prophétie. Et vous savez d'ailleurs qu'une des techniques qu'ils apprenaient, une des disciplines qu'ils apprenaient, c'est la musique. Vous savez cela? Que pour pouvoir être prophète, il fallait, en trop de qualité, être capable d'être grand musicien. Vous savez pas ça? Eh bien, apprenez. Donc, et alors, les Bnei Hanevi'im, on les prenait chez les musiciens. Par exemple, quand on parle des Lévites, eh bien, c'est clair, c'était les chanteurs. D'ailleurs, je crois que Dans la société juive contemporaine, si on cherchait qui sont les Lévites, il faudrait que je fasse une analyse sociologique un peu plus ample. Mais j'aurais tendance à répondre, c'est les poètes. C'est vrai ? Les païdanimes. Non, mais je dis ça en français pour que ce soit plus clair. C'est pas ceux qui chantent des poèmes pieux, païdanimes. Non, c'est les poètes. Ceux qui sont capables de les écrire et de les chanter. Les chanter, je veux dire, d'en faire le chant. Est-ce que c'est clair ? Donc, quoi que le mot poète vient du mot grec qui a donné le mot païtan, qui est l'hébreu rabbinique du temps des Grecs. Poïen, faire, créateur. Okay. Et je crois effectivement que la fonction des Lévites est, en quoi que ce soit, ce rôle-là est joué de notre temps chez les poètes. J'ai remarqué que derrière les grands mouvements de l'histoire juive, il y a des poètes d'abord. Vous avez remarqué ça? Eh bien, remarquez. Donc, étudiez la chose. Je veux dire, encore une fois, le discours d'un poète, quand c'est de la vraie poésie, est commun à toute la communauté. Alors que le discours d'un idéologue n'est commun qu'à ses idéologues, enfin, comment vous dites, à ses fidèles. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Donc, pas pour rien que les prophètes étaient de si grands poètes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils étaient musiciens. Et la preuve, c'est qu'on ne lit pas les textes de la Bible, on le chante. C'est pas pour rien. Et que, bien sûr, pour chanter, il faut être musicien. Ça a l'air d'être évident, non? Alors, « V'isha achat mineshe b'ner nevim, tzakel elisha. » Alors là, je vais vous donner une traduction. Est-ce qu'il y a une Bible en français quelque part dans la bibliothèque? Que quelqu'un puisse lire la traduction habituellement. Sinon, vous allez en prendre une dans mon bureau. Bon, quelqu'un qui sait... Ah, tu as trouvé. Alors, tu... c'est laquelle? La Bible du Rabbinat. Donc, quelqu'un qui sait lire en français. Alors, tu prends les rois, chapitre 2, livre 2, chapitre 4. Tu es... Vas-y, alors lis le premier verset. Entends les premiers.
De l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Élisée.
Ah, plus l'enfant. Mot par mot.
La femme de l'un des jeunes prophètes.
Oui, jeune prophète. Alors qu'il y a les fils de prophètes. Oui, donc.
Vint se plaindre à Élisée.
En disant. Jusque-là. C'est traduit le mot hébreu tsaraka. Tsaraka, c'est beaucoup plus fort que ça. À crier, à réprimander. Tsaraka, elle a. Elle est pas venue. On peut venir se plaindre. Mais tsaraka, c'est très fort. Oui, c'est complètement banalisé dans la traduction. Alors, je vais vous dire ce que j'ai entendu hier sur ce verset du Rav Eliyahu. Je me trouvais une soirée où il se trouvait aussi. Il a cité ce verset pour tout à fait autre chose. Il a donné un diouk, une précision de sens que je voudrais mettre en évidence. Ça va nous servir pour ce texte. Il a cité cela en disant, c'est une femme qui a été pleine de dettes, on va lire son histoire, et puis le créancier est venu réclamer les dettes, elle ne pouvait pas les payer, alors il a réclamé ses deux enfants comme esclaves, pour au service du roi, comme on pourrait dire. Et encore, c'était un roi d'Israël. Okay, bon, mais au temps de Élisha, le roi d'Israël était un païen. Pour rappeler quel roi c'était, sa femme c'était Isabel. Et Isabelle, pas la catholique, la juive, c'est pire. Et chaque fois que j'entends Jézabel, chaque fois que j'entends Isabelle, je pense aux poubelles. Ça rime d'ailleurs, Isabel. En hébreu, Isabel, vous savez ce que ça veut dire. Et là, en arabe d'ailleurs, ça a le même sens. Isabelle. Et je reviens au texte. À son expression, il dit ceci. Et que la revendication de cette femme de fils de prophète au prophète Élisée est très forte. Ça veut dire elle le met en accusation. Comment peux-tu laisser faire une chose pareille que des enfants d'un fils de prophète reçoivent une éducation de ce temps-là? Des païens, au service du roi, mais quelle éducation il va prendre. Ça veut dire que ce qui va déclencher le miracle que nous allons lire est un événement suffisamment important pour qu'on comprenne pourquoi le prophète va déranger le bon Dieu pour faire un miracle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire, si on lit ça comme une anecdote, on se demande, mais de quoi parlent ces récits? Est-ce que le bon Dieu se joue à ces choses-là? Est-ce que c'est clair? Bon, alors vous voyez déjà le parallèle avec le temps des Maccabées. Ça veut dire toute l'identité judéenne est en risque d'être hellénisée. Alors, il faut faire quelque chose pour que on soit sauvé de cela. Ça veut dire il faut arriver à comprendre l'événement au niveau du miracle. Est-ce que l'événement justifiait le miracle? Alors le miracle devient invraisemblable. Bien, après, on va comprendre comment il fonctionne. Voilà, si on a déjà compris ça, c'est l'essentiel. Okay, pourquoi ça nous gênait des récits pareils? Parce qu'on se dit, c'est anecdotique. C'est des histoires de bonnes femmes, enfin de foi de charbonnière, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, parce qu'une femme ne peut pas payer ses dettes, le bon Dieu va faire que de l'huile va couler, comme on va voir. Est-ce que c'est clair? Ou bien, parce que les Judéens voulaient allumer leur candélabre, alors une petite fiole d'huile va brûler 8 jours au lieu de brûler 1 jour. C'est beaucoup plus important que ça. Qu'est-ce qui est en jeu? Alors voilà l'exemple que le Rav Eliyahu a donné. C'est clair? Alors, je rappelle les personnages. La femme d'un de ceux qui s'initient à la prophétie vient réclamer au prophète un miracle. Pourquoi? Parce que ses enfants risquent d'être assimilés. Devenir les serviteurs d'un créancier. C'est clair. Donc, alors je continue. Elle est venue se plaindre en disant, « Avdecha Ishi, ton serviteur, mon mari, Met, est mort, Vatayadarta, et toi tu sais qui Avdecha Yahyare est Hachem. Toi tu sais que ton serviteur était craignant Dieu. » On ne parle pas de n'importe qui. Okay. Le miracle ne sera fait que pour un craignant Dieu. Vernoche est le créancier Bala Kachat Ishnei Yaladai est venu prendre mes deux fils, Lola Avadim, pour lui comme esclave. Vayomer Edera Elisha, Elisha lui dit, Maheselar, qu'est-ce que je peux te faire pour toi? Hagidili, raconte-moi, explique-moi, dis-moi, Maheselar Babaït, qu'est-ce que tu as dans la maison? Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire, vous voyez ce que Elisha lui dit tout de suite, je ne peux pas faire un miracle sur rien. Si tu as quelque chose, je peux le miraculer. Mais si tu as rien, s'il n'y a pas de base, donc il faut qu'il y ait une base. Vous suivez? Donc, on continue. Va ton mère. Il n'y a rien à ta servante dans la maison qui im asur chamen, sinon une fiole d'huile. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte. Va ton mère, il dit, Lechi, Shali, l'arkelim, va et demande pour toi des vases. Kelim. Retenez bien ce terme. Il faut qu'il y ait un keli pour que le miracle vienne. Il faut qu'il y ait un véhicule du miracle. Alors on traduira keli pour l'histoire de l'événement, des vases, des récipients, des jarres, tout ce que vous voudrez. Ken. Mais en hébreu, keli, ça veut dire, encore une fois, les véhicules des présences qui ne peuvent venir que s'il y a des véhicules. Donc, de la même manière que le Or dépend de son Kéli, s'il n'y a pas de Kéli, le Or ne vient pas. La lumière ne vient que s'il y a un véhicule approprié. Par conséquent, le...